La Xylochronique, une émission de Christiane Weissenbuescher. Si on laisse de côté le petit bois, bois d'énergie destiné au chauffage et bois de trituration destiné à des produits comme le papier ou les panneaux de particules, il reste les grumes destinées au bois d'œuvre. Les plus grosses grumes allaient jadis alimenter les chantiers de construction navale, civile ou militaire. Sous Louis XIV, un vaisseau de premier rang n'exigeait pas moins de 2000 à 4000 troncs et une simple frégate près de 1000. Vous pouvez imaginer le nombre de forêts parties flotter sur l'eau depuis le temps que l'homme se bat en mer. Au tournant du XVIIIe siècle, même ce pays très continental qu'est la Russie voulut avoir sa flotte. Le tsar Pierre le Grand vint en personne étudier la construction navale à Amsterdam et à Londres, et il travailla même incognito comme simple ouvrier dans les chantiers navals de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales près de Zaandam. Cette histoire incroyable mais vraie inspira de nombreuses fictions théâtrales et lyriques, dont la plus célèbre est Tsar und Zimmermann, Tsar et Charpentier, un opéra d'Albert Lortzing créé à Leipzig en 1837 et encore régulièrement joué en Allemagne de nos jours. Les billons ne dépassant pas 2,5 m de longueur et 25 cm de diamètre revenaient aux menuiseries, ébénisteries, charronneries, taillanderies, etc. Parmi les produits issus de ces ateliers traditionnels, j'aimerais en évoquer deux qui entretiennent une résonance particulière avec la musique, à commencer par le tonneau. Il y a loin de la grume à la chanson à boire. Le mérandier commence par choisir son bois, qu'il coupe à ses verres, débite en billots de la hauteur du tonneau et fend, dans le sens de la fibre du bois, en quartier puis en mérin. Après séchage à l'air libre pendant plusieurs années, les mérins sont écourtés, c'est-à-dire sciés à la longueur du tonneau, et dolés, c'est-à-dire incurvés pour épouser les arrondis externes et internes du futur tonneau. Puis les douelles ainsi obtenues sont jointes et cerclées. Le fût est alors soumis au feu et à l'eau, et une fois ses fibres ainsi ramollies, il est cintré par serrage progressif, doté de ses fonds et de sa bonde, et cerclé de façon définitive. Si la chanson à boire a un allié dans le tonnelier, l'allié de la chanson à danser est le sabotier, car le sabot est un instrument de percussion autant qu'une chaussure. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le petit peuple des campagnes, et sans doute aussi des villes, se chaussait essentiellement de sabots de bois. Avant de donner naissance aux claquettes américaines, les sabots musicaux furent une spécialité du nord de l'Angleterre, celle dans laquelle Charlie Chaplin fit à 10 ans ses premières tournées avec les Eight Lancashire Lads. C'est ce qui explique la présence d'une danse en sabots dans La fille mal gardée, un ballet réalisé en 1960 pour le Royal Opera House de Londres par le chorégraphe Frederick Ashton, à partir d'un ballet pantomime français de 1789, maintes fois revisité depuis. Pour la musique, le compositeur John Lanchberry retint essentiellement les airs populaires d'origine, complétés de quelques apports ultérieurs, comme ceux de Hérold en 1828, ou cette danse des sabots du premier acte, issue d'une version de 1864 due à Peter Ludwig Hertel. Et en 1993, on put entendre à Mulhouse, montée par le Ballet du Rhin, l'œuvre initiale de 1789, telle que le Ballet de l'Opéra de Nantes l'avait produite 4 ans plus tôt pour les 200 ans de la Révolution française, sous le titre original de Doberval, le Ballet de la Paille.